Alors, on a devant nous une simple fiche de révision sur les opérations, tu sais, le genre de document qui peut rappeler des souvenirs de collège, pas toujours des bons.
Ah oui, ça peut donner quelques sueurs froides.
Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces quelques lignes, en fait, c'est un peu le code source de presque tout. La finance, l'informatique.
C'est une excellente image.
Et aujourd'hui, on va pas juste réviser, on va essayer de décortiquer ce code ensemble.
C'est exactement ça. La mission, si on veut, c'est pas de refaire des calculs, c'est de comprendre un peu la philosophie qu'il y a derrière. On va se concentrer sur trois points qui ressortent bien des sources.
D'accord.
D'abord, le vocabulaire. Pourquoi, par exemple, les mots termes et facteurs sont pas du tout interchangeables? Ensuite, l'ordre des opérations. Pourquoi cette hiérarchie? Elle n'est pas arbitraire. C'est une nécessité pour éviter le chaos, en fait.
D'accord.
Et enfin, la distributivité. Moi, j'appellerais ça un peu l'outil de traduction universelle des mathématiques.
Parfait. Alors, commençons par le début, le vocabulaire, les noms des personnages de notre histoire, si on veut.
C'est ça.
Pour une addition, un exemple simple, 2,11 plus 33,5. Les nombres qu'on ajoute, ce sont les termes. Et le résultat, c'est la somme.
Classique.
Pour une soustraction, c'est pareil, on a aussi des termes, et le résultat, c'est la différence. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, pour la multiplication, tout change.
Ah oui.
Pour 52 fois 3,4, on ne parle plus de termes, on parle de facteurs. Et le résultat, c'est le produit.
Et cette distinction justement entre termes et facteurs, c'est tout sauf un détail pour les puristes. C'est vraiment le cœur du réacteur.
Ah oui, bien sûr. Pourquoi?
Pense-y de manière concrète. Des termes, dans une addition, tu peux les réorganiser comme tu veux. Si tu ajoutes 50 euros sur ton compte, puis 20, ou 20, puis 50,
Le résultat est le même, oui.
voilà. Les termes, ce sont des éléments qu'on accumule, on les empile.
C'est assez statique, en quelque sorte. On ajoute des briques à un mur.
C'est une image parfaite. Voilà. Maintenant, un facteur, c'est une transformation, c'est dynamique. Si on te dit que ton capital a été multiplié par un facteur 2, puis par un facteur 3, il a été transformé, il a été mis à l'échelle.
Ah oui, je vois, ce n'est pas une simple accumulation.
Pas du tout. Le mot facteur porte en lui une idée de croissance ou de réduction, une idée d'influence. C'est ça qui ouvre la porte à des concepts beaucoup plus puissants comme la croissance exponentielle. Ce n'est pas juste un autre mot, c'est vraiment un autre concept.
D'accord. Et pour la division, c'est encore un autre monde, avec le dividende, le diviseur, le quotient.
Exactement. Et chaque mot décrit une action bien précise. Le divisende qu'on partage, le diviseur qui impose le partage et le quotient qui est le résultat de ce partage.
D'accord. Donc on a les personnages et leur rôle. Mais ça suffit pas. Il faut comprendre comment ils interagissent. Qui parle en premier? C'est toute la question de la priorité des calculs.
La règle en apparence, elle est simple. D'abord les parenthèses, puis les multiplications et divisions, et on finit par les additions et soustractions. Une règle qu'on apprend souvent par cœur, sans forcément en saisir toute la portée.
C'est exactement ça. Prenons l'exemple un peu chargé des sources. A égale 25 plus 35 moins 5 fois 10 divisé par 2 plus 3.
Ah oui, celui-là.
Au lieu de le lire bêtement de gauche à droite, la règle nous force à le dépouiller comme un oignon de l'intérieur vers l'extérieur.
J'aime bien l'image.
Je me souviens d'un prof qui nous disait « Les parenthèses, c'est une soirée VIP. Personne ne rentre ou ne sort tant que la fête à l'intérieur n'est pas terminée. »
C'est une excellente analogie. Ça capture parfaitement l'idée d'isolation du calcul.
N'est-ce pas? Du coup, on commence, 35,5, ça devient 30. Et 2 plus 3, ça devient 5. Et là, d'un coup, l'expression respire déjà beaucoup mieux.
Oui, elle se simplifie. On a 25 plus 30 fois 10 divisé par 5.
Exactement. Ensuite, on passe aux opérations dites fortes, la multiplication et la division. 30 fois 10
donne 300.
Puis ce résultat, 300, divisé par 5, ce qui nous donne 60. Et là seulement, à la toute fin, l'addition, l'opération la plus faible, peut entrer en jeu. 25 plus 60, et on a notre résultat, 85.
Ce qui est intéressant ici, c'est que le résultat final, 85, est presque anecdotique.
Ah oui.
Oui, ce qui compte, c'est le cheminement. C'est un algorithme, un protocole qui garantit que n'importe qui, n'importe où dans le monde, en suivant ses règles, arrivera exactement au même résultat.
C'est un protocole de non-ambiguïté, en fait.
C'est le mot parfait. Dans le monde de la science, de la programmation, une instruction ne peut pas avoir plusieurs interprétations. Le chaos n'est pas une option. Cet ordre strict, c'est le garde-fou qui rend les maths fiables.
D'accord.
Et ça nous amène à une idée très subtile, mais cruciale, qui est dans la source. La véritable nature d'une expression, elle est dictée par la dernière opération qu'on effectue.
C'est un point sur lequel on passe souvent très très vite.
Ah oui, alors qu'il est fondamental. Si tu as une expression comme 2 fois 3 plus 7 fois 11, tu fais les multiplications en premier, d'accord?
Oui, 6 et 77.
Voilà, mais la toute dernière action, celle qui conclut tout, c'est d'additionner ces deux résultats. Donc, cette expression, par nature, c'est une somme.
C'est une somme de deux produits.
Exactement. Et à l'inverse, si tu as 5 plus x fois 2 plus 4, même s'il y a des additions à l'intérieur, la dernière chose que tu fais, c'est de multiplier les deux blocs.
C'est donc un produit.
C'est donc un produit. Peu importe ce qu'il y a dans les parenthèses. C'est l'opération finale qui donne son identité à toute l'expression.
Cette idée de « dernière opération » est vraiment éclairante. On a donc, d'un côté, des opérations qui accumulent, les additions, et de l'autre, des opérations qui transforment, les multiplications. On dirait presque deux mondes séparés. La question qui vient, c'est, est-ce qu'il y a un moyen de passer de l'un à l'autre? Est-ce qu'il existe un pont entre ces deux univers?
C'est la question parfaite, et la réponse est oui. Ce pont existe. Et c'est sans doute l'un des outils les plus puissants des mathématiques de base. C'est notre troisième point, la distributivité.
D'accord.
La règle, on la connaît. K fois A plus ou moins B égale K fois A plus K fois B. Mais c'est plus qu'une formule. C'est une sorte de pierre de Rosette qui permet de traduire un produit en somme et inversement.
Et la source illustre bien ces deux sens de traduction. D'un côté, il y a le développement. On part d'un produit, comme 6 fois A moins 3.
Oui.
Et on distribue le 6 à l'intérieur de la parenthèse. On le donne à A et on le donne à 3. On obtient 6A moins 18. On a transformé un produit en une différence.
C'est ça.
Mais honnêtement, quand je vois K fois A plus B, mon premier réflexe est de calculer A plus B d'abord. Pourquoi est-ce qu'on voudrait développer? Ça a l'air de compliquer les choses, non?
C'est une excellente question, parce qu'elle touche à l'utilité réelle de l'outil. Avec des inconnus, comme ce A, parfois c'est la seule façon de progresser. Mais même avec des nombres, c'est un outil de calcul mental redoutable.
Ah bon?
Essaye de calculer 18 fois 5 de tête.
90.
C'est faisable, mais pas instantané pour tout le monde. Maintenant, pense à 18 comme étant 20 moins 2.
D'accord. 20 moins 2 fois 5.
Et maintenant, distribue le 5. Tu obtiens 20 fois 5 moins 2 fois 5.
Soit 100 moins 10. Ah oui, 90. C'est évident, là.
Transformer un calcul un peu difficile en deux calculs très simples.
C'est bluffant. Et j'imagine que le chemin inverse, la factorisation, est tout aussi important.
Absolument, partir d'une somme, comme 5 fois A plus 5 fois 2, et revenir à un produit.
Comment on fait ça?
Eh bien, c'est un processus de détection. On regarde l'expression et on se demande quel est l'élément commun, le facteur que ces deux termes partagent.
Si c'est le 5.
C'est le 5. La factorisation, c'est l'art d'extraire cet élément commun pour le mettre en évidence, devant une parenthèse. On passe de 5a plus 10 à 5 fois a plus 2. On a pris une expression qui était une somme et on l'a réécrite comme un produit.
D'accord.
Et ce va-et-vient constant entre développer et factoriser, c'est vraiment le cœur de la gymnastique en algèbre. C'est ce qui permet de simplifier des équations, de trouver des solutions, de révéler la structure cachée d'un problème.
En résumé, ce qui a commencé comme une simple fiche de révision nous a emmené bien plus loin. On a vu que le vocabulaire, ce n'est pas anodin. Il décrit vraiment la nature profonde d'une opération.
Tout à fait.
On a compris que l'ordre des priorités, ce n'est pas une convention, mais un protocole universel pour être clair. Et on a découvert la distributivité, non pas comme une formule, mais comme un outil de traduction puissant et flexible entre le monde de l'addition et celui de la multiplication. C'est une redécouverte, en fait, de l'architecture logique des calculs de tous les jours.
C'est exactement ça. Et cette architecture, elle n'est pas propre aux mathématiques. C'est la base de n'importe quel système logique. Quand un développeur écrit une ligne de code, quand un juriste rédige un contrat...
Il a besoin de cette même rigueur.
Il s'appuie sur la même nécessité d'un ordre d'opération et de clauses sans aucune ambiguïté. Comprendre cette grammaire du calcul, c'est comprendre un des principes fondamentaux sur lesquels notre monde est construit.
C'est la garantie que les instructions seront interprétées de la même manière par tout le monde.
Exactement.
Et pour conclure, j'aimerais qu'on revienne sur un détail qu'on a vu passer. Dans une expression comme 5 plus x fois 2 plus 4, l'apparition de cette lettre, ce x.
L'étincelle qui allume le feu de l'algèbre.
C'est ça. Pendant toute notre discussion, on a parlé de règles qui s'appliquent à des nombres connus, concrets. La pensée qui me vient, pour laisser le sujet ouvert, c'est la suivante. Comment est-ce que l'introduction d'un seul élément dont on ne connaît pas la valeur, ce x, transforme toutes ces règles? Est-ce qu'elle les brise? Ou est-ce qu'au contraire, c'est justement là que leur véritable puissance se révèle? Quel nouvel univers de possibilités est-ce que ça ouvre?